Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du Grand Dialogue de ce jeudi, l'enfance au Mali, ou du moins les difficultés que celle-ci rencontre. C'est à la faveur de la journée de l'enfant africain célébrée aujourd'hui même ici au Mali que nous avons voulu nous intéresser à ce sujet. Pourquoi une journée pour l'enfant africain? Comment se porte aujourd'hui l'enfance au Mali? Les tests qui visent à protéger les enfants sont-ils réellement respectés? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités. Nos invités qui sont Fadimata Sangaré, elle est la présidente du Parlement des enfants, Dominique Kouamé de l'IRC, c'est donc International Rescue Committee, le comité international de sauvetage, c'est en français, et Ibrahim Alassane Cissé, le chef de la section législation de la division de la promotion de l'enfant. La présentation, Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais, le Mali célèbre aujourd'hui même la journée de l'enfant africain. Pourquoi une telle journée n'en est-elle pas simplement une journée de plus? Je pose la question en premier lieu à vous, Fadimata Sangaré, vous qui êtes la présidente du Parlement des enfants.
D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi la journée de l'enfant africain? Il est à retenir que cette journée commémore le massacre des enfants de Soweto tombés sous le régime de l'apartheid en 1976. Donc cette journée vraiment permet aux enfants de faire part de leurs problèmes en général, de faire des séances de sensibilisation, de plaidoyer et d'information. Et
vous voulez dire qu'au-delà du symbole, cette journée apporte quelque chose?
Oui, oui, parce que c'est une journée qui est consacrée aux enfants. Donc ça nous permet de dire vraiment les mots auxquels nous sommes confrontés, ce à quoi vraiment, ce dont nous nous souffrons, et on peut faire cela à travers des plaidoyers, à travers des séances de sensibilisation et d'information auprès des leaders coutumiers, des acteurs de la société civile, et bref, les décideurs, ceux à qui le dernier mot revient.
Alors, maintenant, je me tourne du côté de vous, Dominique Kouamé. Je rappelle que vous êtes de l'International Rescue Committee, qui est donc le comité international de sauvetage. Alors, pour vous, qu'est-ce que cela représente, cette journée de l'enfant africain?
Bien, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur votre plateau aujourd'hui. Je dirais que pour nous, la journée de l'enfant africain, c'est une manière de magnifier l'Afrique à travers sa progéniture. Je dirais que c'est une manière aussi de mettre l'accent, de attirer l'attention des uns et des autres, surtout des Africains, sur le traitement qu'on donne aux enfants, sur la manière d'aborder la question de l'enfance, et sur c'est une sorte aussi de sensibilisation à l'endroit de tout un chacun, parce que lorsque vous prenez un peu, vous allez un peu dans nos régions, la manière dont la journée est célébrée, la célébration, toutes les activités qui sont contenues dans cette journée, vous voyez que c'est à majorité des sensibilisations. Des sensibilisations et des plaidoyers à l'endroit des dirigeants pour prendre des mesures qui visent toujours à protéger les enfants.
Alors, nous nous adressons à présent à vous, Ibrahim Alassane, si c'est vous qui êtes le chef de la section législation de la division de la promotion de l'enfant, la journée africaine de l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une initiative qu'il fallait?
Bien, merci bien, M. Fomba. Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écoutent. Et au-delà de ce que mes collègues viennent de dire, j'ajouterai deux choses. D'abord, cette journée a été instituée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, en souvenir, comme les autres l'ont dit, au massacre des enfants de Soweto en 1976. Cette journée n'est pas seulement une journée d'information et de sensibilisation, mais cette journée est aussi l'occasion pour évaluer ce qui est fait pour les enfants chaque année. Ça aussi, c'est important qu'on l'ajoute. C'est aussi une journée de réflexion, mais aussi une journée d'évaluation de tout ce qui est fait en faveur des enfants. Je vous remercie.
Alors, maintenant, nous allons retrouver Fadimata Sangaré, la présidente du Parlement des enfants. Alors, dites-nous maintenant, cette journée, elle est célébrée aujourd'hui, elle commence, se termine aujourd'hui, alors elle continue. Parlez-nous un peu du programme.
D'accord.
En quelques mots, oui.
D'accord. Je suis désolée de vous dire que normalement, oui, aujourd'hui c'est le 16 juin, mais comme vous le voyez, la journée n'a pas été célébrée comme de façon coutumière, comme nous avons l'habitude de le faire. Et c'est dû vraiment à des... Nous-mêmes, on est indépendants de ça parce que, comme vous le savez, toujours c'est sous la haute présidence de son excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, nous étions impatients, nous les enfants, de fêter cette journée et tout ça. Mais bon, on a été obligés...
C'est un problème de calendrier, effectivement.
Voilà, c'est ça, de reporter. Donc, c'est suite à cela que l'activité ne s'est pas tenue aujourd'hui. Mais bon, ça ne s'est pas fait de façon solennelle, mais cela ne veut pas dire que les actions ne sont complètement arrêtées pour cette journée. Beaucoup de partenaires sont en train de réaliser des activités.
Les activités s'étendent sur combien de jours?
Les activités, moi, je dirais que pour le 16 juin, certes, c'est une journée spécifique, mais vu que c'est dans le mois de juin, les activités du 16 juin, c'est vraiment pour tout le mois de juin. Nous, nous prévoyons de fêter nos 20 ans qui étaient le lundi passé, parce que le Parlement des enfants a été créé le 13 juin 1996. Donc, on voulait inscrire la célébration de nos 20 ans dans le cadre des festivités du 16 juin. Et cette activité se tiendra bientôt et nous avons nos collègues de communicateurs, l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, qui sont aujourd'hui à Mopti pour des séances de sensibilisation sur l'exploitation sexuelle des enfants.
Donc, avant de donner la parole à Dominique Kwame, cette question, c'est une journée qu'on sent à Bamako, ça se ressent aussi à l'intérieur du pays. Vous avez parlé de Mopti dans toutes les régions.
Oui, effectivement.
Maintenant, cette question, nous avons dit que la journée de l'enfant, c'est l'occasion de passer en revue l'association des enfants. Comment se présente, selon vous, Dominique Kwame, la situation de l'enfant au Mali aujourd'hui?
Bien, merci. Je dirais que actuellement, comme vous le savez, le Mali est toujours dans une situation de crise. La crise, nous avons eu des évolutions notables avec certaines décisions politiques, mais tout compte fait, nous restons encore dans la situation de crise. Et donc, pour ce qui est des enfants actuellement, on dirait que les enfants sont toujours en situation de vulnérabilité. Pas tous les enfants, mais nous avons des cas de vulnérabilité, soit dû à des besoins alimentaires. Pour ce qu'on sait, il y a eu la crise alimentaire au niveau du Mali. Ensuite, des besoins en protection, éducation. Pour aller plus en profondeur, nous dirons que lorsque vous allez un peu plus dans les régions qui sont plus concernées par la crise, dans les régions du Nord, nous constatons par exemple dans certaines régions où les établissements scolaires n'ont pas encore été réouverts. Donc tous ces enfants-là restent sans éducation. Voilà. Avec les différents partenaires sur le terrain, on essaie de combler ce vide-là avec nos actions, nos interventions, nos stratégies. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il existe des besoins en termes de protection, d'éducation, de santé même au niveau du Mali.
Mm-hmm. Ibrahim Alassane Cissé.
Oui. Bien, par rapport aux activités pour le 16 juin. Je rappelle que au niveau de Bamako, il y a une commission nationale qui est mise en place, qui est pilotée par la Direction nationale de l'enfant et de la famille. Et au cours de ces réunions préparatoires du 16 juin, généralement, nous demandons aux partenaires alors, d'amener leurs activités qu'on va insérer dans un programme national. Mmh. Et c'est le même processus qui se répète au niveau des régions. Les directions régionales de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille également tiennent des réunions au cours desquelles ils planifient aussi des activités avec les autres partenaires. C'est ainsi que la présidente, aussi bien que ma sœur, vient de vous dire qu'effectivement aujourd'hui, c'est la journée phare qui n'a pas été fêtée au Mali, mais les autres activités continuent effectivement d'être fêtées. Et je sais que vous êtes au courant tout comme moi.
À vous maintenant, Fadimata Sangaré, cette question, je ne parle pas des conséquences de la situation de crise dont le Mali sort. Alors, l'enfance au Mali, vous êtes jeune, c'est vrai, mais l'enfance au Mali, est-ce qu'elle est un peu plus heureuse aujourd'hui qu'avant?
Partant de cette question, vraiment, Il est déplorable de voir la situation des enfants, très sincèrement. Moi, je dirais que l'enfance d'avant et l'enfance de maintenant, c'est totalement différent parce que les manières d'être ont changé, la vue actuelle a changé. Et donc, en fonction de cela, les enfants, la condition des enfants aussi change. Et si pour prendre des décisions, on ne met pas l'enfant au cœur de ces décisions-là, c'est sûr que les enfants souffrent parce qu'ils sont les plus sensibles.
Vous voulez dire que c'est plus dur pour les enfants aujourd'hui qu'hier ?
Oui. C'est plus dur pour les enfants d'aujourd'hui plus qu'hier. Les enfants, ils ont faim. Les enfants ne sont pas protégés. Les enfants quittent d'une région, sinon d'une localité, pour une autre, pour un meilleur vivre. Et quand ils vont quitter là-bas, c'est sûr qu'ils vont arriver à destination. Est-ce que ces enfants sont suivis? Ces enfants qui quittent des kilomètres et des kilomètres pour arriver à l'école, déjà, ils seront découragés. Il y en a qui ne continuent pas leur scolarité. Ils seront découragés, ils vont pas vouloir continuer. Même ceux-là qui continuent, arriver à l'école, il n'y a pas de cantine pour manger. Et tout ça, c'est un problème. Mais autrefois, il y avait de la solidarité, il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, on est à un stade où on veut l'essentiel, mais on ne fait pas l'essentiel. Donc du coup, les enfants, on dit qu'on est là pour les enfants, mais pour des actions, on parle mais on laisse les enfants. Ils ne parlent pas. Qui est mieux placé pour parler des enfants sans eux-mêmes? Donc là, on voit que la chose vraiment, elle n'est pas effective et vraiment, il y a un manque qui est là, il y a un fossé qui est là.
Vous voulez dire qu'il arrive qu'on agisse plutôt au nom des enfants,
oui.
sans les impliquer eux-mêmes?
Oui. Qu'on agisse au nom des enfants. Si vraiment les enfants sont dans le besoin, on peut certes aider les enfants à exprimer leurs besoins, mais on ne doit pas être là pour parler au nom des enfants, pour parler du mot des enfants à leur place. Non, parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir vraiment la situation dans laquelle ils sont et ils sont les mieux à pouvoir s'exprimer sur ça.
Dominique Kwame, on le sait bien, les enfants ont subi quand même les effets de la crise, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les enfants du Mali sont confrontés. Il y a toutes les formes, beaucoup de formes quand même d'exploitation. Il y a aussi le mariage forcé qui est toujours une réalité malheureusement, Dominique.
Oui, merci. Je dirais que au Mali, comme un peu partout, pour ce qui concerne les problèmes de protection, nous avons plusieurs types, comme vous l'avez dit. Nous avons des violences, nous avons les négligences, nous avons les abus physiques et émotionnels. Nous avons, vous avez parlé d'exploitation, etc. Pour parler de mariage forcé, il faut dire que c'est un fait, c'est une forme de violence qui est assez difficile à traiter parce que elle pointe du doigt aussi les traditions. Voilà. Et cette forme de violence-là est une difficulté parfois aussi pour nous en tant qu'organisation dans nos actions parce que vous trouverez dans des communautés où c'est normal qu'un enfant, qu'une fille, par exemple, se marie à l'âge de 16 ans. Alors que, selon les dispositions au niveau international, lorsque l'enfant n'a pas atteint la majorité, il n'est pas en âge de se marier. Donc souvent, nous butons sur ce fait-là. C'est un peu difficile d'aborder cette question, surtout à cause des pesanteurs socioculturelles au Mali. Voilà.
Studio Tamani, il sera 17h30 dans moins d'une minute. La suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La journée de l'enfant africain, c'est de ce sujet que nous traitons en mettant l'accent sur la situation de l'enfance au Mali. Nous le faisons avec trois invités, Fadimata Sangaré qui est la présidente du Parlement des enfants, Dominique Kwame qui est du Comité international de sauvetage, c'est en français, Ibrahim Alassane Sissé, le chef de la section législation, la division de la promotion de l'enfant. Alors nous avons donc entendu Dominique se prononcer sur la situation des enfants au Mali. À présent, nous allons nous tourner du côté d'Ibrahim Alassane. Si c'est Ibrahim, on l'a dit, il y a beaucoup de situations difficiles pour les enfants, l'exploitation, il y en a les mariages précoces qui restent un problème. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a là une contradiction, un déphasage entre les textes existent bien et la coutume?
Bien, merci bien. Moi, d'abord, je vais revenir par rapport à la situation des enfants. J'avoue que l'État et ses partenaires ont beaucoup fait, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ça veut dire qu'il reste aussi beaucoup à faire. Vous voyez, surtout la crise que le Mali a connue en 2012, et nous continuons de faire encore, de vivre encore les conséquences de cette crise-là. Et c'est pour cela que certainement la présidente du Parlement des enfants est en train de dire que les enfants souffrent beaucoup plus. C'est vrai, les enfants aujourd'hui, ils ont besoin de manger. Les enfants ont besoin d'être soignés. Les enfants ont besoin d'être protégés. Les enfants ont besoin d'être scolarisés. Les enfants ont aujourd'hui, ils sont victimes de traite. Ils sont victimes d'abus, de violence, d'exploitation. Bref, aujourd'hui, c'est vrai que le pays, le gouvernement et ses partenaires ont beaucoup fait, mais il reste beaucoup à faire. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, maintenant, par rapport à votre question, s'il vous plaît, rappelez-moi la question.
Je disais qu'on a l'impression quelquefois que les textes et la réalité se voient.
Oui, par rapport aux textes, je dis qu'effectivement, il y a un problème. Parce que le Mali a ratifié beaucoup de conventions, notamment la convention relative aux droits de l'enfant. Le Mali a ratifié la convention, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et autres textes, vous voyez. Mais il se trouve que même notre propre législation nationale est aujourd'hui contraire à la ratification de ces instruments-là. Parce que le code de protection, le code des personnes et de la famille, aujourd'hui, précise que la fille peut être mariée à 16 ans. Alors qu'on est enfant au Mali jusqu'à...
Précisez, vous parlez de quoi, quel code?
Le code dit de la personne des personnes et de la famille du Mali.
Une législation nationale.
Oui. C'est un code du Mali qui a été adopté en décembre 2011. Vous voyez, donc ce code-là, on précise que à 16 ans on peut faire marier la fille et 21 ans pour le garçon. Et alors que nous avons ratifié des conventions comme la convention relative aux droits de l'enfant, nous avons ratifié la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et autres textes. Et nous-mêmes nous disons que dans le code de protection de l'enfant que le Mali a adopté effectivement, on dit que l'enfant c'est tout être humain âgé de 0 à 18 ans. Ça veut dire que même quand vous prenez pour qu'un enfant ait, pour qu'un individu ait une carte d'identité nationale au Mali, il faut qu'il ait 18 ans. Pour qu'on soit appelé sous le drapeau au Mali, il faut qu'il ait 18 ans. Ça veut dire que c'est un âge, ça c'est l'âge minimum qu'on veut accorder à l'individu pour qu'il puisse être en tout cas très productif.
Alors, au Merci. Niveau des textes, on voit bien qu'il y a problème. Mais au-delà des textes aussi, ce débat, au moins, il existe ici, dans les grandes villes. Le débat est en cours ici, à Bamako. Mais j'ai l'impression que ce débat est inexistant quand même dans beaucoup de localités à l'intérieur du pays. Il n'est pas question qu'on limite pour l'instant. On n'y pense même pas, si ne me trompe pas, Fadimata Sangaré. Quand tu vas dans les localités, en campagne, le monde rural, est-ce que c'est un problème qui a même posé l'âge des enfants, les mariages précoces? Est-ce qu'on en parle là-bas?
Si, on en parle. Et je dirais que c'est là-bas même que c'est fréquent. Oui.
C'est fréquent, mais est-ce qu'on a conscience du fait que c'est un problème, ça constitue un problème quand vous allez à l'intérieur, dans les petites localités?
Autrefois, non. Mais maintenant, on peut dire, même si ce n'est pas de façon totale, mais on peut dire qu'il y a une amélioration comparativement à autrefois. Parce que maintenant, on en fait un problème majeur, un problème capital. Donc, qu'on cesse d'en parler. Et je crois que même dans cette année, ça figure dans l'une de nos activités pour notre mandat biennal. Donc, c'est des combats vraiment il faut vraiment du courage, il faut vraiment être serein, il faut vraiment être dur pour pouvoir les mener à long terme parce que une ou deux sensibilisations ne peut pas faire changer les choses. Sinon même, donc il faut en faire plusieurs. Tu vas rencontrer des personnes vraiment qui vont vouloir te rendre la vie difficile, mais c'est une cause noble parce que beaucoup d'enfants, le mariage forcé sinon précoce, bon, c'est différent, hein. Ça a beaucoup de conséquences. Donc, je crois que c'est des arguments solides concernant les conséquences du mariage précoce ou du mariage forcé qui peut faire changer les choses. Sinon, maintenant, on peut dire que vraiment les populations de la zone rurale, sinon des zones rurales sont en train de prendre conscience petit à petit, je dis bien, de la situation du mariage précoce, des conséquences que ça peut apporter. Mais force est de reconnaître qu'il reste beaucoup à faire, parce que pour un pourcentage, on dirait que le pourcentage vraiment est minime.
Dominique Kwame, il y a quand même mon problème. Deux textes d'un même pays concernant le même problème qui se contredisent. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, la contradiction, elle est là. Mais vous savez, en tant qu'organisation internationale, ce que nous pouvons faire, c'est que de plaidoyer auprès des structures étatiques. C'est que de plaidoyer auprès des décideurs. Voilà, pour qu'on puisse se conformer. Parce que si on décide de ratifier une loi internationale qui dit que le mariage peut se contracter entre des personnes à partir de 18 ans pour des enfants qui sont majeurs, il faudrait qu'on puisse la mettre en pratique au niveau des pays. Et donc, si on se trouve dans le cas où, tel est le cas au Mali, où la constitution, bon, la législation la prévoit autrement, c'est juste de faire des plaidoyers, comme on l'a dit, auprès des décideurs pour qu'on puisse réviser ces lois. C'est juste tout ce qu'on peut faire.
Alors, je vois que M. Cissé, Ibrahim Alassane Cissé, veut réagir.
Oui, je dis qu'effectivement, ma collaboratrice d'IRC a raison. L'État et ses partenaires sont en train de s'y mettre pour que... L'État a pris conscience de cette... insuffisance de la législation malienne. Donc ça veut dire que l'État et ses partenaires de plus en plus ont pris conscience, et que je suis certain que plus tard il y aura un fruit. C'est parce qu'il faut aller à l'harmonisation des textes. On ne peut pas vouloir une chose et puis refuser et faire une autre. Non, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement aller à l'harmonisation des textes, que ce soit les conventions ou bien les textes adoptés par le Mali, il faut nécessairement aller à l'harmonisation. Et même si c'est retard, je suis convaincu que plus tard, on y arrivera.
Vous voulez réagir, Dominique?
Oui,
allez-y.
J'ai un complément par rapport à ce qu'il vient de dire. Je dirais que aussi, le texte, il faut aussi dire que l'harmonisation des textes, ça sera la première étape, parce que le plus difficile reste à mener nos parents dans les communautés, dans les régions, à pouvoir accepter ce fait. Parce que lorsqu'ils sont dans une pratique qui devient presque culturelle, c'est très difficile de les amener à sortir de là. Donc le texte, l'harmonisation des textes, ce sera le point de départ, mais ensuite le plus grand du travail, ce sera au niveau de la sensibilisation, au niveau des actions à prendre sur le terrain avec les communautés à la base.
Alors, les enfants maliens qui ont donc beaucoup de problèmes, ils ont subi l'effet donc de la crise, des enfants dans des camps de réfugiés. Il y a les mariages précoces, mais il y a d'autres choses. Ceux-là même qu'on appelle les enfants de la rue. Alors, la situation des enfants de la rue, qu'est-ce que vous en savez, vous, Fadimata Sangaré, la présidente du Parlement des enfants? Il y a toujours beaucoup d'enfants qu'on peut appeler enfants de la rue au Mali?
Si, hein? Il y a beaucoup d'enfants qu'on peut appeler enfants de la rue. La preuve, tu sors tout de suite là dans la rue, tu vas voir beaucoup d'enfants. Et je vais... Bon, me permettre de dire quelque chose, mais je souhaitais d'abord présenter mes excuses. Je dirais, au fait, la question de l'enfance, il est vraiment temps de savoir que ça a toute une responsabilité. Vouloir un enfant, c'est une chose, mais il faut aussi réfléchir avant d'avoir un enfant. Parce qu'un enfant, ça demande beaucoup de responsabilités. Il faut investir dans l'enfant. L'enfant, il faut le scolariser.
Vous voulez dire que quand on est parent, on doit s'assumer?
On doit s'assumer. On ne doit pas... On peut avoir un enfant, mais on est libre aussi d'avoir un enfant au moment opportun. Mais vouloir un enfant parce qu'on le veut et ne pas à s'assumer, là, ça devient autre chose. C'est pourquoi, je dirais que c'est l'un des problèmes vraiment qui s'ajoute au mot des enfants. Si toutefois, chacun était vraiment conscient du fait que avoir un enfant demande de grandes responsabilités, et là, on allait réfléchir mille fois avant d'avoir beaucoup d'enfants, et parce qu'on allait dire que oui, si il faut que j'ai un enfant, je dois le scolariser, je dois l'habiller, je dois le soigner, je dois le protéger, je dois beaucoup d'affection à l'égard de cet enfant-là. On va réfléchir beaucoup de fois, mais je dirais que on n'est pas conscient du fait qu'avoir un enfant, ça demande beaucoup de responsabilités. Donc je dirais qu'il faut vraiment qu'on y songe, qu'on voit ce côté-là. Je l'ai dit, je présente mes excuses, mais c'est quelque chose, c'est une réalité qui est là, donc il faut vraiment le dire.
Alors, une façon d'interpeller les parents, je crois qu'ils vous comprendront. Maintenant, nous allons écouter Dominique Kouamé sur cet aspect de ces débats.
Ok. Par rapport à ce point, moi, j'aimerais relever deux choses. La question des enfants, les enfants de la rue. Il y a des enfants, comme on le dit, de la rue, des enfants qui sont sans abri, qui vivent dans la rue, et il y a des enfants que moi j'appellerais sur la rue ou encore dans la rue. Voilà. Parce que c'est pas tous les enfants que vous retrouvez dans la rue qui sont sans abri. Il y en a qui ont leurs parents tout, mais qui se retrouvent dans la rue pendant les journées en train de mendier, en train de faire ceci, en train de faire cela. Voilà. Une fois de plus, ça touche au problème de l'éducation. Voilà. Parce que si l'enfant se retrouve, c'est parce que l'enfant n'est pas scolarisé, l'enfant n'est pas à l'école, qu'il se retrouve dans la rue, qu'il se retrouve en train de mendier, en train de faire ceci, de faire cela. Voilà, ça c'est le cas des enfants qu'on retrouve sur la rue. Donc il faut toucher le problème de l'éducation. Il faudrait qu'on puisse prendre la disposition pour que chaque enfant ait au moins droit à l'éducation jusqu'à un certain niveau. Ça c'est important.
Ibrahim Alassane Cissé.
Bien, moi je dis qu'effectivement, comme elle le dit, il y a des enfants dans la rue. Il y a des enfants dans la rue. Enfants dans la rue, ça veut dire que c'est lui qui passe plus son temps et qui vit dans la rue. Enfant de la rue, ça veut dire simplement enfant dans la rue, c'est-à-dire qu'il fait plus de moins de temps. Il a un moment il est dans la rue, et un autre moment il rejoint son domicile. Maintenant, enfant de la rue, ça, c'est celui qui vit permanemment dans la rue.
Il y mange, il dort.
Tout ce qu'il fait, c'est dans la rue. Maintenant, comme elle le dit, effectivement, c'est des responsabilités qu'il faut engager ici. L'État a beaucoup fait, et l'État et ses partenaires vont continuer à faire. Mais il faut également un accompagnement des parents d'enfants. Un accompagnement de l'État aussi. Parce que moi, souvent, vous savez, cette mendicité-là, elle est condamnée par notre code pénal. Elle est interdite par notre code pénal. Mais on n'applique pas. Elle est condamnée par notre code pénal. Le code pénal du Mali. Mais il se trouve que, je ne sais pas comment ça arrive, les enfants, tout le monde les voit dans la rue. Ils sont dans la rue, ils sont de la rue. Mais tout le monde ferme les yeux. L'État et ses partenaires, notamment le développement social, le ministère de la promotion de la femme, autres partenaires des ONG qui sont dans le domaine, mais toujours on continue de vivre la même situation dans la rue.
Ils vivent justement des conditions si difficiles qui peuvent faire de sorte qu'ils peuvent être des potentiels délinquants, non?
Oui, parce que souvent, nous pensons que même les parents ont une large part. Parce qu'un enfant aujourd'hui, tout enfant a un père, a une mère. Et tout enfant a des droits qu'il faut préserver. Le parent est le premier responsable de l'enfant. La famille, la cellule familiale est le premier niveau d'éducation et de vie de l'enfant. Mais si cette famille, et si les membres de cette famille n'arrivent pas à gérer l'enfant, d'éduquer correctement l'enfant, de le mettre à l'école, de le soigner, de le faire manger, c'est un problème. Mais je crois que les enfants aussi ne viennent pas toujours dans la rue parce qu'il n'y a pas à manger, hein, parce qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a autre chose qu'on cherche.
Vous voulez dire que ce n'est pas forcément par la faute des parents qui quittent?
Bon, je ne peux pas dire que c'est par la faute des parents qu'ils quittent. Il y en a qui c'est par la faute des parents. Mais par contre, d'autres aussi interdisent à leurs enfants de partir, mais ils continuent de partir. C'est parce qu'il y a des cas comme ça.
La suite de ce débat dans un instant.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. L'enfance au Mali, nous en parlons à la faveur de la journée de l'enfant africain. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure le cas des enfants qu'on appelle enfants de la rue, mais il y a quand même une autre catégorie, peut-être que les deux peuvent se rejoindre quelque part, mais il y a les enfants coraniques, les talibés. Là aussi, Dominique Kouamé, je crois que ça pose problème.
Oui, voilà une fois de plus une question qui est assez aussi sensible. Comme on le dit, les enfants talibés, les enfants coraniques, ce sont des enfants qui vivent avec le maître coranique, généralement, qui ne sont pas avec les parents biologiques. Voilà. Et donc, ces enfants-là sont dans la rue en train de mendier. Ils mendient, ils envoient l'argent, je pense, au maître coranique, etc. Ça, c'est une question qui est assez difficile aussi parce qu'elle touche à la religion. Voilà. Et quand vous vous retrouvez dans un contexte où la religion, bon, je vais aller un peu plus en profondeur, je m'excuse, où la religion musulmane, on est dans un contexte au Mali où la population a majorité musulmane, et donc c'est vraiment difficile d'aborder ce genre de questions. On vous dira, le maître coranique vous dira par exemple que ça fait partie de la formation qu'il donne aux enfants, de les envoyer au coin de rue pour mendier, etc. Alors que c'est vraiment pas pour un enfant. C'est d'abord, les enfants dans la rue sont exposés à un type, à des violences, sont exposés à des risques de protection, à des facteurs de risque de protection. Voilà. Donc, c'est vraiment pas adapté pour les enfants. Et donc, ce que nous pouvons faire en tant qu'organisation, c'est de mener des actions dans ce sens. Mais le souci aussi que nous avons souvent, c'est que les parents de ces enfants-là ne sont pas connus. Ils ont juste comme répondant le maître coranique. Et donc, comment arriver à faire comprendre au maître coranique que ce n'est pas la place des enfants dans la rue, voilà ceci, alors qu'il est dans toute une idéologie, dans toute une pratique qui, pour lui, s'inscrit dans la religion. Et donc, ça, c'est un peu compliqué.
Fatimata Sangare.
Merci beaucoup. Je souhaiterais intervenir par rapport à cette problématique. Les enfants mendiants, les enfants coraniques. Aujourd'hui, on est à un stade où tout le monde se cache derrière la religion pour faire tout. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on dit que c'est la religion. Alors que c'est conditionné à quelque chose. Bon, la question religion, c'est un peu sensible, mais bon. Mais on fait ce qu'on veut, ce qui nous arrange, et on dit qu'on se cache derrière la religion pour dire que c'est la religion qui demande ça. Certes, oui, les enfants, ils peuvent... Un marabout peut peut-être amener à enseigner des milliers d'enfants, supposons-le. Donc, à lui seul, il ne peut pas vraiment les nourrir tous. Donc, il peut demander à ses enfants-là vraiment d'aller commander. Des personnes de bonne volonté seront là pour l'appuyer, lui, dans sa tâche noble à vouloir nourrir ses enfants. Mais du moment où ces enfants-là sont amenés à chercher de l'argent pour amener à la maison, sinon ils seront battus. Bon là, moi je comprends plus. Et je dirais, est-ce les parents d'abord, ils savent la situation dans laquelle leurs enfants ils sont, ou bien ils le savent, mais aussi ils se disent que non, du côté de la religion, ces enfants, donc c'est tout à fait normal que ces enfants vivent cela. Mais moi, du fait que sincèrement, ces enfants-là, ils peuvent aller chercher à manger, mais... Du moment où on dit à un enfant, tu amènes telle somme d'argent, si cet enfant-là ne l'amène pas, il sait qu'il sera battu. Si je sais que je serai battu à la maison, je vais tout faire pour amener cet argent-là, que ce soit par la voie normale ou la voie anormale, je vais chercher cet argent pour l'amener. C'est ce qui fait que ces enfants mendiants, tu vas appeler des enfants mendiants, tu vas trouver que ces enfants-là, ils ne savent même pas réciter le Coran. Parce qu'ils ont un autre souci. L'objectif, c'était de venir et apprendre le Coran, mais du fait qu'ils ont une autre pression, ils sont vraiment sous pression, donc ils oublient, c'est-à-dire ils sont préoccupés maintenant pour chercher de quoi amener à leur maître coranique plutôt que d'apprendre le Coran. Donc là, c'est compliqué, c'est pourquoi ces enfants, ils deviennent des délinquants, ils deviennent des voleurs. Sinon, ce sont des enfants qui méritent plus de soutien, qui méritent plus d'accompagnement. Mais la situation fait que ces enfants, ils perdent toute leur éducation, même ceux-là, ils vont vraiment dans la délinquance. Donc là, moi, je ne vois plus le sens de faire venir les enfants et de les confier à les maîtres coraniques.
Nous allons suivre la réaction d'Ibrahim Alassane Cissé.
Bien, merci. En fait, comme les autres viennent de le dire, c'est un sujet très, très sensible. Mais moi, je crois que le constat est clair. Hein, c'est que nous regardons les enfants sur les artères devant les portes, plus de temps devant ces artères et ces portes que dans un temps d'apprentissage. On ne peut pas dire qu'ils n'apprennent pas, mais en tout cas, le constat est clair. Ils perdent plus de temps au dehors qu'au lieu de l'apprentissage. Je crois que ce qu'il est aujourd'hui, chacun de nous a pris conscience, et aujourd'hui, l'État et ses partenaires, tout le monde a pris conscience, les parents, tout le monde, les marabouts, tout le monde. Mais moi, je crois qu'il faut aller à une réorganisation de ce secteur. Nécessairement, il faut aller à une réorganisation de ce secteur pour que vraiment les enfants puissent avoir un temps d'apprentissage ou même aller à l'enseignement sur place. Parce que quand un éducateur dit que je me déplace d'une localité à une autre, le parent aussi peut dire « Ah, moi je peux garder mon enfant. » Ou bien « Ah, l'enfant peut savoir comment, quand tu reviens, il peut continuer à apprendre. » Ou bien il va aller apprendre avec un autre. Et on n'est pas obligé de faire accompagner l'enfant par celui qui voyage. Hein. Ça aussi c'est clair.
Alors, nous avons parlé de beaucoup de problèmes, mais vous le savez autant que moi qu'il y a assez de violence aussi, quand même au Mali et particulièrement à la partie nord du pays. Alors, les enfants dans cette situation, c'est qu'est-ce qu'il y a comme risque pour les enfants qui vivent dans ce lieu où il y a autant de violence?
Par rapport au risque
Dominique
de protection,
Kouame, oui.
Par rapport au risque de protection au nord Mali, et généralement un peu partout, mais plus dans les périodes où les plus concernés par la crise, on dira qu'il y a plusieurs types de facteurs de risque pour ces enfants, des risques de protection. Il y a aussi un grand risque actuellement qui est traité aussi par des organisations, c'est les risques liés au reste des explosifs et des mines. Voilà. Dans les régions comme Kidal, et ces alentours, c'est des risques qui sont réels pour les enfants. Voilà. Donc il y a des sensibilisations qui sont faites au niveau de notre organisation IRC aussi. Dans nos activités au niveau communautaire, nous abordons ce genre de sujet. Au-delà de ça, nous avons le problème de recrutement des enfants dans les groupes armés. Voilà. De nos jours, si vous avez suivi un peu, comme vous avez suivi aussi un peu l'actualité, vous avez vu que dans pratiquement toutes les attaques que nous avons eues, dans toutes les attaques terroristes que nous avons eues un peu partout dans les pays, les kamikazes, les personnes qui sont venues, c'était toujours, quand vous les voyez, c'est toujours des jeunes adolescents. Ils vont au-delà de... On peut les situer entre 18 et 20 ans, plus de 21 ans. Voilà. C'est dire que les situations de vulnérabilité sont récupérées par certains acteurs pour mener certaines actions. Donc, vous trouvez un enfant qui est dans une situation de vulnérabilité, il est facilement recruté par des groupes armés et utilisé pour le terrorisme et autres actes. Voilà, donc ça aussi, ce sont des risques. Au-delà de ça, nous avons des risques de protection que nous avons l'habitude de voir, tels que les violences, les exploitations, le travail des enfants. Le travail des enfants, la déscolarisation. Mais la déscolarisation, c'est dû au mouvement des déplacements, dû à la crise, c'est dû aussi au fait que les écoles n'ont pas réouvert dans certaines localités, etc. Donc c'est là les risques de protection pour les enfants.
En d'autres termes, il s'agit certainement de ce qu'on appelle aujourd'hui radicalisation. Il y a donc beaucoup de risques à ce niveau, n'est-ce pas, Fadima Sangaré? La présence du Parlement des enfants, les enfants sont assez exposés par rapport à ces phénomènes, non? Ce qu'on appelle aujourd'hui radicalisation.
Oui, effectivement, et je dirais que tout ça, c'est par rapport, c'est la crise qui engendre tout ça. Hein. Les enfants, ils sont exposés à cela. Et donc, c'est vraiment difficile. C'est difficile parce que dans ces périodes de crise-là, chacun cherche à se sauver. Et comme je l'ai dit, très généralement, les enfants ne sont pas au cœur des prises de décision. Et je dirais que très généralement, c'est ça qui amène ce genre de problème. Donc, les enfants, ils sont concernés, ça, il faut le dire, mais on ne peut pas dire que totalement, il y a l'espoir qui est perdu, parce que si le problème est détecté, il faut maintenant trouver la solution pour y remédier. Donc, je dirais que c'est une réalité qui est là, et donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela, et je dirais qu'il faut voir lors des prises de décision, lors des programmes politiques, lors de tout ce qui concerne les prises de décision, de mettre les enfants au cœur de cette décision-là pour qu'ils puissent échapper à tout mot et que ce soit pendant la crise, après la crise et dans n'importe quelle situation.
Voilà. Alors, vous dites-nous à présent, Ibrahim Alassane Cissé, vous qui êtes le chef de la section d'éducation de la division de la promotion de l'enfant, face à cette menace qui constitue aujourd'hui le radicalisme religieux, ne doit-on pas vraiment faire quelque chose ici au Mali?
Oui, moi, effectivement, il faut faire quelque chose parce que cela, il va même de la protection des enfants. Aujourd'hui, comme ma soeur de l'IRC vient de le dire, les enfants, effectivement, sont exposés à ces risques, des risques de mines, des risques d'explosifs, d'armes de guerre, des risques de recrutement par les groupes armés. Aujourd'hui, les enfants sont exposés. Il n'y a même pas d'école. Par endroit, aujourd'hui, il n'y a même pas d'école. Par endroit, il n'y a même pas de service de santé. Et il faut dire qu'il n'y a même pas d'eau. Ça, c'est des risques auxquels les enfants et toutes les populations du Nord sont exposées. Et comme vous le dites, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'État et ses partenaires s'y mettent. Mais il faut dire aussi que, parce que tant qu'il n'y a pas la sécurité, ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Il faut que les populations prennent conscience que tant qu'il n'y a pas un temps de paix, on ne peut pas en tout cas bénéficier de tous les droits. Les enfants ne pourront pas jouir de tous leurs droits.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de façon prioritaire pour que l'enfance aille mieux? Je pose à vous en premier lieu, et Dominique Kouamé, je vous pose la question.
Je dirais que par rapport à cette question, ce qu'il faut faire, c'est, comme le collègue l'a dit, c'est d'abord la paix. Voilà. Il faut qu'on puisse avancer vers la paix, parce qu'une crise n'est jamais favorable aux communautés et donc aux personnes les plus vulnérables, dont les enfants. Maintenant, en situation de crise, ce que nous faisons en tant qu'organisation, ce sont des interventions. Pour ce qui concerne IRC, nous avons depuis le début de la crise, parce qu'IRC est là depuis 2012 au Mali. Donc depuis le début de la crise, nous avons mené des interventions dans les domaines de l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Nous avons travaillé à la réouverture de certains établissements scolaires par rapport à notre programme éducation. Nous avons appuyé la formation professionnelle des enseignants. Nous avons aussi appuyé en matériel didactique pour les enfants. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Pour ce qui concerne la protection, nous avons mené aussi des actions en appuyant. Nous avons initié un programme qui vise à appuyer les enfants et les jeunes adolescents, parce que chez nous on parle d'enfants et jeunes adolescents qui va de 16 jusqu'à 22 ans. Voilà, nous les avons appuyés à travers des moyens de subsistance et développement des activités génératrices de revenus telles qu'on appelle couramment les AGR. Voilà, donc toutes ces actions là nous les avons menées dans l'objectif de réduire les risques de protection. Voilà.
Donc, maintenant, je crois qu'on va demander à Fadima Sangaré, la présidente du Parlement des enfants, de prononcer le mot de la fin.
D'accord, merci. L'autre jour, permettez-moi de vous dire que nous avons eu à rencontrer les enfants du centre de Sikoroni. Mm-hmm. Et le responsable nous a laissé un message et dont je vais vraiment m'en vouloir si je quittais vraiment cette salle sans pourtant de le dire. Mm-hmm. Il dit, bon, depuis qu'eux sont là, pourquoi le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille n'est pas venu les rencontrer et pourtant ils sont là pour eux? Pourquoi le ministère de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord n'est pas venu vraiment les voir. Ils sont là pour eux, mais ils ne savent vraiment pas la situation dans laquelle ils sont. Ça, c'est le message qu'il m'a demandé de transmettre à leur nom. Ce que moi, je demande surtout, c'est que beaucoup d'efforts sont consentis pour la cause des enfants, mais travaillons en synergie d'action, donnons-nous la main.
Voilà, ça veut dire qu'il reste du boulot à faire. C'est tout pour cette émission. Oui. On se retrouve donc demain.
Merci.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halou Dumandi.
Chenne Beri. Siki.